et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui dit
I'll be back
au film à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas, c'est pas terrible hein?
Bah c'est Terminator hein, on s'inscrit dans la licence.
T'as vu notre suite comme elle a l'air mieux que Dark Fate?
Il y a un concept. Il y a un gros concept. Cette semaine dans Certains les Machos,
Hors Normes, d'Éric Toledano et Olivier Nakache.
Sorry We Miss You de Ken Loach.
Terminator, Dark Fate de Tim Miller.
Fallait de l'ordre avec Schwarzenegger quoi.
Tim Miller, c'est le mec qui a fait Deadpool. Attends, c'est important. Deadpool, c'est un grand film.
C'est juste qu'on s'en bat les steaks de Tim Miller.
On va tellement regarder ça. Hein, c'est vrai qu'on s'en bat les steaks de Tim Miller.
Tu pourrais nous dire
non. Terminator Dark Fate avec Linda fucking Hamilton.
Ben oui, voilà. Plutôt, ouais. Enfin, une petite séance de rattrapage avec Maléfique 2 et Angry Bird 2
et une petite clôture avec 5 et le numéro parfait de Igor avec Tony Servillo.
Un programme grand écart un peu, hein.
Bah, pour changer, tiens.
Même hors norme, je dirais.
Waouh.
On écoute ça tout de suite, même.
Et si on te demande comment tu es venu?
En métro.
En passant par quelle station?
Saint-Lazare.
Et ensuite?
Porte de Champéret.
Yes.
Je vais tout déchirer.
Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein.
CRJM.
Centre de jour médicalisé.
Centre d'accueil de jour médicalisé. T'as oublié le A.
Désolé.
Tu triches.
Si, si, je t'ai vu.
Le diagnostic, c'est quoi?
C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale. Il est mineur. Elle demande un placement judiciaire.
Ça nous laisse combien de temps, ça?
Environ 15 jours.
Je vais trouver une solution.
J'imagine.
Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution.
C'est qui ce couple-là?
Ah, c'est les inspecteurs.
L'IGAS, tu sais ce que c'est? Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur.
Depuis Intouchable, les réalisateurs Éric Nakache, Éric Toledano et Olivier Nakache, on les confond tout le temps. C'est l'autisme finalement, hein, la dyslexie. On parle d'autisme, on parle de dyslexie.
C'est comme les Dardennes, ils n'ont pas d'existence propre.
Non, c'est au sens
les Dardennes, c'est vrai. Eux,
c'est au sens. Est-ce que tu sais lequel c'est lequel?
Alors, je disais donc que depuis Intouchable et ses 20 millions d'entrées. Allez, 19,5, allez, c'est bon. On vous emballe, on vous fait 20. Olivier Nakache et Éric Toledano créent l'événement à chacun de leurs films. Le sens de la fête, par exemple. Samba. Et aujourd'hui, hors norme, avec Vincent Cassel et Reda Kateb.
Oh,
Era est là, salut Era.
Salut Thomas.
Karl nous a rejoint également.
Salut.
Et nous avons une invitée, Inès. Salut Inès.
Salut.
Inès de Critique Film et Just Focus. T'étais déjà venue pour un film précédent, c'était pour Give Me Liberty, que je n'ai pas eu la chance de voir, mais Thierry m'en a dit le plus grand bien. Et d'ailleurs, l'émission a été à écouter. On vous le met le lien en description. Alors ce hors norme ici, enfin, on est toujours dans le handicap, je parlais d'intouchable, mais cette fois-ci on est plus dans le trouble autistique et dans la gestion du trouble autistique avec les associations à qui on refile le bébé, entre guillemets. Car quand le trouble est trop grand, quand la personne est trop difficile à gérer, les instituts homologués ne peuvent plus les accepter, il n'y a plus de place. Et ce sont des associations qui se dévouent. Alors, elles sont hors normes, dans le sens où vraiment, là, elles sont hors protocole. Hein, mais justement, elles essayent des trucs pour aider ces personnes qui sont vraiment dans le besoin, dans la difficulté. Gros risque de pathos, non?
Ah bah, surtout avec Toledo et Nakache, qui ne sont pas étrangers du fait. Moi, j'ai juste vu Intouchable et Samba, qui déjà bourraient bien dans le truc.
Pour moi, ils tombent jamais dedans, en fait. Et c'est là-dessus qu'ils sont assez forts, c'est que c'est des films sociaux qui sont très justes, bon, qui vont très loin dans tout ce qu'ils vont décrire, mais qui passent toujours plutôt bien parce qu'il y a une sincérité qui se dégage et qui... Je ne vais pas dire que ça peut faire pardonner quelques maladresses, mais en tout cas, ça les explique parce que je pense que même quand on est très engagé dans quelque chose et qu'on veut absolument défendre une cause, on peut aussi, des fois, aller dans des excès quand on la défend nous-mêmes parce qu'on est totalement submergé par ce qu'on essaie de défendre. Là, j'ai trouvé que ça avait un ton qui me faisait plus penser à Samba. Justement, bon, le sens de la fête était une comédie, un petit aparté qui faisait un peu penser à Nos Jours Heureux, qui était plus social quand même, mais qui avait un ton très léger. Le ton qui avait aussi Intouchable. Intouchable, c'était plus basé aussi sur la différence sociale entre les deux. On faisait beaucoup de vannes là-dessus. C'était beaucoup plus léger. Là, ça me fait penser à Samba, qui reste léger dans le traitement, mais lourd dans le fond, beaucoup plus lourd. Et ouais, c'était vraiment, j'ai trouvé ça très touchant. Mais c'est très lourd quand même, dans le fond. Il y a énormément de choses à accepter, il y a énormément de choses à voir. On n'hésite pas à te montrer beaucoup de choses et du coup, ça fait, ça rend le film très fort, quoi.
Oui, c'est très lourd parce que le trouble autistique, on a certains cas où les personnes touchées vont se taper la tête contre les murs, vont s'auto-mutiler. On a ça peut être des séquences choc, hein. Même si ici, on n'est pas trop exposé directement, mais on a les retours, on a les séquelles.
Il y a toujours le risque de la lourdeur, puisque finalement, c'est quand même un duo de réalisateurs qui s'attaque souvent à des sujets très sérieux. Et je trouve dans ce film, comme finalement les films précédents, qu'ils arrivent à trouver finalement la juste distance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même un sens du tempo et du rythme qui permet, je trouve en effet, une adhésion du spectateur, mais qui est finalement nécessaire, hein, pour le coup. Hein. On est dans la comédie sociale et on aborde un sujet quand même comme oui, les troubles autistiques et aussi... On a quand même le volet administratif, le volet associatif, qui, sur le papier, n'est pas très sexy, mais qu'ils arrivent quand même à rendre compte avec une justesse, je trouve, extrêmement touchante, comme l'a signifié Thierry.
Moi, je sais que je suis en minorité à ne pas avoir aimé le film. Alors, pour moi, Toledano et Nakache ne font pas des films sociaux, ils font des films sociétaux. Ce qui n'est pas la même chose, c'est, à la différence du film social qui confronte toute une frange d'un problème, enfin... Dans la population, il y a un problème. Le sociétal dit, il y a un problème. Et moi, ce que je trouve qu'ils font à chaque fois, c'est, il y a un problème, on n'en fait pas assez et c'est pas bien. Et tu vas avoir deux ou trois personnages qui sont un peu Reda Kateb et Vincent Cassel, qui eux, bon, je vais pas aimer le film, mais eux, ils sont un peck du début à la fin, qui vont te faire des petits discours. Ah, mais il faut aider les handicapés, mais le gouvernement, enfin, les institutions ne gèrent pas les cas les plus graves parce que c'est vrai qu'on a juste pas assez de place pour tous les autistes qu'il y a en France. On n'a pas le personnel, pas le matériel, pas les bâtiments pour pouvoir s'occuper d'eux. Et voilà, oui, je suis d'accord, on devrait mieux s'occuper des autistes. Il dure combien de temps le film ?
J'allais dire ressenti 2 heures, effectivement, c'était ça. Je suis d'accord avec Karl. J'ai plutôt bien aimé le film. En fait, j'ai adoré ce qu'on me racontait, j'ai pas aimé la manière dont on me le racontait. J'ai adoré qu'on me parle de ces problématiques-là. J'ai adoré qu'on me dise à quel point c'est compliqué de s'occuper d'autistes. J'aurais bien aimé qu'on me montre à quel point c'est compliqué de s'occuper d'autistes. Et on le montre un petit peu parce qu'il y a peut-être un ou deux ressorts dramatiques notables dans le film. Mais globalement, c'est plus une vue d'ensemble de l'association. Donc on comprend, Vincent Cassel, le personnage de Vincent Cassel est super occupé. C'est un héros, ce mec, effectivement, ils le disent dans le film, a des couilles, et c'est clair. Et pour moi, ça, c'est les personnes qui font ça, qui sont prêts à un peu ne pas suivre les lois pour s'occuper de personnes et vraiment prendre soin des autres, c'est des super héros. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas toujours de la bonne manière. Donc, je trouve ça absolument génial. Et ce que fait ce mec et cette association, c'est fantastique. Mais en fait, on le voit courir pendant tout le film. Et c'est la majorité de ce qu'on voit. C'est...
Ouais. Mais parce que c'est sa réalité.
Mais parce que c'est sa réalité, mais c'est pas un film sur le personnage de Vincent Cassel. C'est un film sur une association qui s'occupe d'enfants autistes. Donc, on va avoir plusieurs scènes, mais pour moi, la problématique du film, c'est qu'on va voir des scènes de vie sans réel ressort dramatique et au final, le personnel autistique est présent, mais par contre, les patients, les personnes dont on s'occupe, le sont très peu à l'écran. Et on voit très peu. Pour moi, on les voit pas assez, ils sont pas assez mis en avant. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi que c'est pas la manière dont ils voulaient traiter le film, ce que je comprends. Ils voulaient peut-être effectivement placer plus la caméra derrière le personnel et montrer que c'est eux qui font des efforts et des trucs de malade. Et ok, mais je pense que c'est peut-être pas ce que je m'attendais à voir et donc que j'ai été un peu déçue par leur approche. Et j'ai trouvé ça super long avant qu'il y ait des mécanismes scénaristiques qui se mettent en place pour rendre le contenu intéressant et leurs actions intéressantes.
Je trouve que le point de vue justement de suivre ces éducateurs, c'est peut-être le seul point d'accroche qu'on a parce que l'autisme et les troubles autistiques, justement, le truc c'est qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'ils ne nous comprennent pas mais on ne les comprend pas non plus et on ne sait pas ce qu'ils vivent et on ne peut pas le savoir. On peut essayer de communiquer, on peut essayer de mettre des trucs en place pour communiquer mais on ne sait pas ce qu'ils comprennent. Donc les suivre n'aurait pas eu de sens, je pense. Et je pense que c'est formidable de les suivre. Et puis sur le fait qu'on ne voit pas assez les malades, on les voit beaucoup, on suit essentiellement deux cas. Valentin et Joseph, il y en a un qui est suivi depuis un moment, qu'on essaye d'intégrer dans un cadre de travail, qu'on essaye de... qui commence à être autonome, et on se bat pour qu'il soit autonome. Et un autre qui, lui, va sortir d'un institut médicalisé, fait d'un truc de l'extrême, quoi. C'est vraiment, il est enfermé, il se tape partout, et on va essayer de le sortir pour qu'il se libère un peu, et pour essayer de lui trouver une place, et pour essayer de... qu'il arrête... et au moins arrêter qu'il soit... c'est essayer de baisser sa violence et d'arrêter qu'il soit violent. on a deux cas qui sont... Bon, c'est pas tous les cas qu'on a. C'est évidemment, ce sont deux échantillons, mais je pense que, justement, ça permet d'éviter l'effet catalogue. Si on avait eu plus d'autistes, j'ai peur qu'on tombe sur un effet catalogue et qu'on se lasse plus qu'autre chose. Là, ça permet de mettre un visage et de les identifier et, justement, de s'attacher à eux.
Et je ne souhaitais pas non plus qu'il y ait 15 personnes que l'on suive. Mais par contre, quitte à les suivre, autant les suivre vraiment. C'est-à-dire que leur progrès et l'avancée de ces personnages-là et le fait qu'on montre à quel point est-ce que l'association leur permet d'évoluer, on ne le voit que dans la dernière partie du film. On ne voit pas le progrès de ces personnages le long du film. Moi, montre-le-moi, en fait, que cet enfant, donc Valentin, montre-le-moi qui progresse, montre-le-moi qui va mieux, montre-moi à quel point ça l'aide, ce que tu es en train de faire.
Alors, oui, mais je pense que la notion de progression, justement, on a tendance à calquer, en fait, une notion assez linéaire, sauf qu'on parle, justement, je pense, d'individus qui ne suivent pas la même linéarité qu'on attend dramaturgiquement, en fait, d'un personnage. D'où le fait, en effet, que pour le personnel encadrant, il y a une progressivité classique, ce qui n'est absolument pas le cas de ces personnages, qui sont là, en fait, pour reprendre aussi le titre, hors norme. Donc, je pense que finalement, c'est assez juste, oui. Il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas véritablement de progression, mais parce que ce sont des personnages qui évolueront toujours de manière, selon nos normes, anarchique, chaotique. Et je pense que le film en rend très très bien compte et rend justesse finalement à ces parcours-là.
Moi, c'est pas une absence de progression, mais comme disait Ra, c'est vraiment, on voit pas... On nous le dit que c'est dur, ça, on nous le dit. Mais il y a plusieurs... On nous dit par exemple plusieurs fois que les gamins se sentent mieux parce qu'ils sont parfois partagés entre un centre hospitalier ou un HP, je suis pas sûr. Et donc l'association de Vincent Cassel, et on nous dit que ils se sentent mieux quand ils sont avec l'association et qu'ils régressent un petit peu quand ils sont enfermés. Sauf que la scène cut chaque fois qu'on les rend au centre. Et donc on te le dit que c'est dur, mais à aucun moment tu vois à quel point tu vois une mère dont la mère du Joseph là, qui est apparemment dans l'association depuis 15-20 ans, elle te dit que c'est dur, mais tu la vois trois soirs et les soirs où ça va bien quoi. Tu vois pas les soirs où elle en peut plus, même si elle a une petite phrase qui dit, mais on la revoit même plus quasiment après ça.
Mais ça, c'est une question de point de vue. C'est parce qu'on est du point de vue des éducateurs, donc c'est eux qu'on va suivre. Et c'est tout à fait normal de pas suivre l'institut médicalisé ou de pas suivre chez les familles. Certes, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais ça aurait été un autre film, ça aurait été autre chose. Et on aurait fait un panorama. Là, ici, on est du point de vue des éducateurs. Et on voit que les mecs, ils courent dans tous les sens. Il y a l'administration qui les fait chier. Ils doivent pousser les murs pour essayer de loger les gamins et pour s'occuper d'eux.
Moi, je dirais que c'est dans le ton dans ce cas-là, parce que je suis d'accord avec Carl encore une fois, mais c'est si on n'installe pas l'image, installe le ton. Installe un ton plus grave, et le film a une tendance à être assez linéaire au niveau de son ton. C'est toujours à peu près la même chose, avec des petites pointes d'humour qui parfois marchent, parfois moins, mais ok. Mais c'est ce qui rend ça moins sensitif que si t'avais été plus en profondeur. Moi, je trouve ça très survolé, en fait, au niveau du ton. Il n'y a pas de moment... Effectivement, on aurait pu tomber dans le pathos hyper facilement, et c'est pas le cas, donc ça, c'est plutôt chouette. Mais t'as le droit d'installer des moments un peu plus lourds. Moi, ce film, au début, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser à Detachment. Et Detachment, pour le coup, ultra pathos, mais installer un peu ce truc-là. Et là, j'ai trouvé que ça manquait de cette profondeur, mais vraiment d'un demi-cran dans ce que... Effectivement, on ne peut pas capter ce que ces personnes ressentent, mais dans ce qu'ils vivent.
Moi, pour avoir bossé un peu avec des gamins en trouble autistique, vous voulez juste survoler. Je vous le dis.
Mais j'ai pas envie de... Ceux qui le font sont des héros, mais moi j'ai pas envie de m'occuper de gamins autistes. Par contre, quand je vais voir un film sur l'autisme et qu'on m'en présente en fait la partie présentable, ce qui reproche de faire au centre qui accueille les autistes les plus présentables, je vais être un petit peu méchant en disant ça sans vraiment vouloir l'être, mais c'est un peu ce que fait le film, hein. On nous présente pas les cas les... Enfin, on nous dit que c'est les cas les plus dangereux. Alors certes, ils sont en rémission et tout, mais c'est pas oufissime non plus ce que je vois. Enfin...
C'est vrai qu'on nous présente des cas, celui qui est le plus violent a des protections sur lui, il se tape juste la tête avec son casque de boxe, bon, c'est vrai. Les cas les plus extrêmes, c'est juste Vincent Cassel dans un moment d'énervement contre les mecs de l'administration qui sont venus le contrôler, qui leur exposent les cas, et c'est vrai qu'on les voit pas directement, bon.
Je vois ça comme une porte d'entrée en fait, quand on est très extérieur au sujet parce qu'on a conscience que ça existe mais qu'on n'en connaît absolument rien et qu'on se retrouve devant ça. Moi, ça m'a donné envie de m'y intéresser, pas forcément de m'impliquer parce que j'imagine que c'est très compliqué. Je sais pas forcément si j'ai, pour paraphraser le film, les couilles pour faire ça. Mais en tout cas, pour m'y intéresser un minimum et avoir une sensibilité là-dessus, oui. Donc, je trouve ça limite bien que le film soit resté relativement en dehors des cas les plus extrêmes, parce que ça m'a permis déjà de me rendre compte que les cas qui sont les plus présentables me semblent déjà assez extrêmes comme ça. Et ça permet, je trouve, de pas aussi avoir une révulsion et de pas se dire on part parce que c'est pas fait pour moi. Là au moins ça parle au moins à tout le monde et des gens qui sont venus en se disant, qui peuvent être touchés par le sujet sans forcément être dégoûtés par tout ce qu'on peut nous montrer.
Mais faut aussi se les mettre dans la perspective, je pense, de tous les films qui ont abordé justement ce genre de pathologie, qui justement se placent dans un ton assez grave, assez mortifère. Ce que je trouve intéressant, c'est justement d'y injecter aussi un peu de fantaisie dans un cadre qui reste quand même hyper réaliste. On brasse quand même énormément de décors urbains. C'est un film finalement hors norme. Je l'ai aussi pris pour un film qui parle des personnes qui sont hors des normes, mais pas forcément que d'un point de vue médical. Donc, ce qui justifie, je pense, le fait de suivre Vincent Cassel, parce qu'on se rend compte que c'est un personnage pivot qui permet de brasser énormément de paysages sociaux. Et j'ai trouvé que finalement, le sujet, c'était de parler des personnes qui sont hors des normes sociales, que ce soit au niveau des éducateurs, parce qu'on suit quand même un aspirant éducateur qui lui aussi suit une trajectoire, une progression. Et finalement, tout ça m'est apparu comme un prétexte pour proposer un récit d'apprentissage concernant toute une galerie de personnages venant d'horizons différents. Que ce soit professionnellement parlant, on passe quand même de centres, on passe de centres médicaux, milieu associatif, socialement, pareil, on est dans le médical, on est dans les banlieues. Et pour le coup, moi, je trouve ça justement quand même plutôt intéressant d'être dans un parti un peu plus optimiste aussi, un peu lumineux. Sans pour autant, moi j'ai pas non plus eu l'impression qu'on était dans l'angélisme pur. C'est quand même un film qui aborde finalement une impasse.
Nous heurtons également une impasse, l'impasse du temps, car le prochain film commence. Voilà, on reste dans le social, ça sera moins joyeux là.
You name it, I've done it. Concreting, plumbing.
Is that you two?
I've done it all.
But why'd you give it up?
It's just gone from job to job.
There's always someone on your back, isn't there?
Come on, we've got time to make up, let's go.
I'd rather work on my own now and be my own boss.
Let's just get a few things straight at the start though, shall we?
J'étais bien ce matin et puis là c'est la fin du monde là.
Sorry We Missed You de Ken Loach. Un bon film sur l'ubérisation.
Déjà, il y aurait 2-3 trucs à redire, parce qu'effectivement, tout le monde en parlait en disant « Un nouveau film de Ken Loach sur l'ubérisation ». Bah non, c'est pas le sujet, en fait.
Non, c'est juste l'histoire d'un mec qui va bosser pour une boîte de transport, et comme il n'est pas employé, il a son propre compte, il est pressé par le système, et comme il n'y a pas de droits sociaux, il est obligé de bosser à son compte, et il est pressé, il a plus d'heures pour sa famille et pour lui, et il est poussé à bout. Mais c'est absolument pas sur l'ubérisation.
Non, mais c'est pas le sujet du film, on n'est pas en train...
Complètement.
Non, mais on n'est pas en train de te faire une critique de l'ubérisation, on est en train de... je trouve vraiment pas que c'est le sujet. C'est le fond, c'est la trame de fond que Ken Loach a choisi pour parler de misère sociale. Mais c'est pas le sujet du film.
Complètement, mais si. Toute l'origine de sa crise, c'est bien de ce boulot de merde qu'il a pris, quoi.
Non, moi, j'irais plutôt que c'est l'angle. Ken Loach représente toujours les prolos britanniques, principalement irlandais. Et là, dans ce cas précis, c'est avec Uber. Alors, en partie parce que c'est l'actualité, mais... Au début, c'est le mec prend Uber parce que c'est le dernier truc qui reste. Parce qu'il est dans un milieu social, dans une situation qui fait que ce gars-là ne sera jamais énarque, n'aura jamais un boulot tranquille derrière un bureau, il devra travailler de ses mains. Et tout ce qui lui reste, c'est ça.
Alors, il va pas chez Uber exactement, il va bosser pour un transporteur, mais au lieu d'être employé de transporteur, il est auto-entrepreneur, il est à son compte, et c'est ce qui va le foutre réellement dans la merde, parce qu'avant il s'en sortait, il vivotait un peu. Là, c'est le fait d'être entrepreneur et d'être dans ce système-là qui va le mettre complètement, qui va l'achever, qui va le foutre complètement dans le jus et dans la merde, parce que ça va lui prendre son temps. Il va devoir investir pour s'acheter son camion, parce que sinon il va devoir le louer à un prix exorbitant. Et il va devoir bosser tout le temps, parce que s'il ne bosse pas, il doit payer quelqu'un pour le remplacer. C'est même pas qu'il décide de pas bosser, c'est que les horaires sont imposés par la boîte, il doit bosser pour le truc et il doit payer s'il va pas bosser. C'est même pas des jours de congé, il doit payer pour ses propres congés. C'est pour montrer que peut-être que l'origine de base de ces malheurs sont pas ça, mais ça les explose, ça les accentue et ça les aggrave tellement que non, si, c'est complètement sur l'ubérisation.
ça s'étend parce qu'il y a aussi on voit aussi sa femme qui est pas mal développée et qui elle c'est pas du Uber, c'est elle fait de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes malades à domicile et elle est dans la même merde. C'est plus sur cette espèce de processus par lequel c'est toujours les pauvres qui se retrouvent à payer le plus au jour le jour. Et avec l'ubérisation, ça accentue, mais c'est à différents niveaux et ça se voit à travers la femme. Mais bon, je suis d'accord, Ken Loach n'a jamais été un garçon subtil. Ça, on est d'accord.
Mais ça s'aggrave parce qu'en plus, il est obligé de vendre la bagnole de sa femme pour se payer son camion pour apporter l'apport et ça aggrave encore le truc. Et ça le met encore plus dans le mal parce qu'en plus, on le fait miroiter. Non, mais t'inquiète pas, au bout de quelques mois, tu verras, ta vie ira mieux. Et c'est pas vrai.
Justement, pour revenir par rapport à sa femme, il y a quand même tout un champ lexical qui justement insiste sur une uberisation, mais qui s'applique en fait à tous les corps de métier. Donc c'est très intéressant justement de l'avoir choisi dans le secteur médical, parce qu'on précise bien à un moment qu'elle a un contrat zéro heure, donc elle est vraiment à la visite, donc elle est rémunérée à la visite. Donc finalement, c'est le même système économique, mais qui est appliqué dans le corps médical. Donc je pense que oui, le postulat, il est quand même là. Hein. Comment, justement, on fait miroiter, il met en scène quand même finalement un système qui est incarné par divers personnages, donc justement, cette espèce de patron de franchise assez implacable. Donc, durant tout le film, c'est vraiment, on s'intéresse aux conséquences. Mais Ken Loach en profite quand même pour balayer finalement tout un pan de l'histoire économique occidentale. Hein, il évoque justement le fait qu'ils avaient été sur le point d'être propriétaires. Et on a vraiment un effet boule de neige. Hein.
Alors, pour revenir sur le sujet, moi je me sens assez concerné parce que du coup, même si j'ai eu la chance de faire ça que 6 mois, j'ai été chauffeur Uber. Donc moi, en plus, j'étais même pas employé d'une boîte, j'étais en plus dans ce cas-là d'auto-entrepreneuriat où les mecs, ils me louent une voiture à la journée, ou même les jours où je bossais pas, je payais la location de la voiture. Du coup, j'étais obligé de bosser 16 heures la veille si je voulais, par exemple, avoir droit à un jour de week-end. Et toujours te miroiter, t'inquiète pas, quand tu feras tes heures, après, on va te laisser la voiture en autonomie, puis on t'accordera un jour de week-end, puis si, on te fait miroiter des choses. Donc ce système-là, je le connais bien, puisque c'est un système dans lequel tu n'as absolument aucune garantie, aucune limite. Finalement, on me retirait 36 000 charges tout le temps. Donc, par rapport aux heures que je faisais et aux courses qui étaient censées me rémunérer hors de la location des voitures, je ne gagnais rien. Enfin, tu vois. Après, moi, c'est plus dans le traitement du film que c'est assez intéressant. Ken Loach, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, il va changer un petit peu son ton, mais qu'il va toujours se rapprocher des mêmes choses. Soit il va s'adresser aux gens qui vont se relever de leurs conditions et tenter de se rebeller contre le système et tenter d'apporter quelque chose à leur vie. Pense à Wooden Albiak, même si y a rarement d'issue, il y a rarement de choses joyeuses qui vont se passer et qu'on te montre que quand c'est foutu, parce que ce mec est extrêmement pessimiste.
Sans blague.
C'est comme ça. Mais il te montre des gens qui essaient de se rebeller contre le système. Là, on est plus dans un portrait d'une famille qui va subir le système. La seule façon pour eux de s'en relever, c'est de continuer à essayer de travailler pour essayer au moins de ramener un peu de pépette pour pouvoir continuer. Donc là, on n'est pas dans l'affrontement social, on n'est pas dans un Ken Loach qui dit « Levez-vous, prenez les armes et partez à l'affront du truc et débranchez le système et éclatez tout ça. » Il est plus en train de vous dire « Voilà ce que vous êtes en train de faire, bande de connards, parce que là, c'est trop tard. Vous êtes dedans. » Et voilà tout ce que vous créez, et vous qui êtes sur votre petit siège de cinéma en train de savourer parce que vous avez les moyens de vous payer une place à 11 balles, vous crachez à la gueule de ces gens-là qui bossent comme des merdes et qui n'auront jamais votre confort, parce que déjà vous êtes dans le confort par rapport à eux. Et c'est vraiment putain de merde, ouvrez les yeux, quoi. Même si ils proposent pas de solution, parce qu'il y en a peut-être pas non plus à proposer là dans les médias, à part ouvrir les yeux.
Récemment, là, il y avait un reportage sur La Poste, sur les conditions de travail à La Poste, avec un logiciel qui calculait les temps de trajet, mais sans faire les pauses vitales et sans calculer qu'il y avait du relief, par exemple, ou qu'il pouvait arriver qu'il pleuve, ou des trucs comme ça.
Ça va, la pluie, les côtes, ça change rien pour la conduite quand t'as un camion de 17 tonnes dans le dos.
Non, et quand t'as un vélo, ça change rien non plus. Hera, est-ce que ça va mieux ?
Non. Non, mais ça va... Non, ça va pas mieux, mais... Je me suis pas tant attardée là-dessus. D'accord, ok, c'est sur l'ubérisation, ça marche, pas de souci. C'est pas là-dessus que moi je m'attarde. Je m'attarde vraiment sur le côté je bosse comme un connard, tant pour l'homme que sa femme, et j'essaie de maintenir une vie en dehors de ça. Et il y a quand même un fond qui est très beau dans ce film, qui est l'union qu'il y a dans cette famille. C'est-à-dire comment on est quand même face à une famille qui s'aime. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on partait de loin, donc il aurait plus manqué plus que ça pour qu'on tombe dans un espèce de gros pathos misérabiliste hyper violent. Là, ça va, on l'a même pas effleuré, donc c'est très cool. Au final, c'est vraiment une bonne critique. Et c'est toujours cet environnement de Dépin, cette Angleterre grisonnante, hyper réaliste, avec tout ce qui va autour, le gamin qui est limite déscolarisé parce qu'il en a rien à foutre, qui voit aucune possibilité d'avenir, la petite de la famille qui essaye de soutenir un peu et qui essaye de remettre, de réparer tout le monde.
La deuxième maman, hein.
Ouais, complètement la deuxième maman, parce qu'en même temps, personne ne peut gérer, en fait, cette famille. La mère essaye, mais elle donne toute son énergie, autant vers ses patients, patients/clients, que sa vie de famille. Et ils n'arrivent même plus à garder un espace pour eux. Donc, ils tiennent vraiment leur vie à bout de bras. C'est plus ça que moi, j'ai retenu, et ce par quoi j'ai été touchée, c'est ce réalisme hyper poignant de... est-ce que t'as vraiment envie de vivre tout ça? Est-ce que t'as vraiment envie de vivre, en fait? Parce que si ça ressemble à ça, c'est pas fun. Et c'est ce que le gamin essaye de... Enfin, lui, il fait comme il peut, en fait, pour éviter de tomber là-dedans. C'est peut-être celui qui, au final, entre guillemets, se sent mieux, même s'il va pas super bien non plus. Mais c'est peut-être celui qui essaye de plus de tenir la barre en essayant de vivre sa passion, en étant, non, mais de toute façon, l'école, là, je m'en fous parce que je ne vois rien. Et il n'y a jamais de lueur d'espoir, en fait, dans ce film. Donc c'est extrêmement fort là-dessus.
Après, ce qui est intéressant, c'est justement la voix de l'adolescent. J'ai l'impression d'y voir aussi, finalement, quand même un passage de relais. Parce que le discours qu'il tient, c'est un discours quand même qui, dans la réalité, ne serait pas verbalisé tel quel par un adolescent. Et ce qui m'a touchée, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de passage de relais. Ken Loach, c'est quand même quelqu'un qui est encore enragé socialement, et qui prend de l'âge, qui a quand même traversé... Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'est pas complètement enfoncé dans un pessimisme mortifère et qu'il pense qu'il y a quand même un passage de relais possible par le biais des enfants, parce que les parents, en effet, le sort des parents est scellé. Je trouve que le spectateur, en fait, se plaît vraiment à suivre cette famille... qui se révèle assez touchante et plutôt juste.
Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'une fois que tu as terminé de bosser, tu vieillis. Et il y a toute une peinture justement de la vieillesse. Donc Carl disait il y a deux secondes, Ken Loach est vieux. Oui, Ken Loach est vieux. Et il y a toute une peinture de la vieillesse là-dessus, puisque la mère, femme, s'occupe de personnes âgées. Et ce que tu vois, c'est je bosse toute ma vie pour aider des personnes qui peuvent même plus s'aider elles-mêmes, qui n'ont plus de famille, qui ne sont pas entourées. Donc là, tu as quand même le contraste, genre au moins toi, tu as une famille, donc ça peut le faire. D'autres n'en ont pas. Et t'as besoin d'être aidé, donc moi je trouve que c'est vraiment ce côté, la boucle est bouclée du sans-espoir en fait, et du côté déjà terminé de la vie quoi.
Même les parents, ils sont pas abattus dans le sens où ils s'accrochent encore à leurs valeurs, ils ont encore, même s'ils sont complètement baisés, ils ont encore dans 3 ans on peut être propriétaire, dans 6 mois on peut récupérer une voiture, il y a encore un plan, c'est pas juste garder la tête hors de l'eau, c'est vraiment une famille qui essaie de voir l'avenir et de s'en sortir malgré toutes les merdes. Parce que bon, là on parle du contexte, enfin du propos, mais face au film, c'est le défaut de tous les films qui essayent de dépeindre une réalité, une dépression. Bah, c'est répétitif et dépressif, donc il dure assez longtemps, ou en tout cas il y a un ressenti. Avec même, je trouve un ralentissement sur la fin, un moment où... Oui, enfin, où tu revois un peu les mêmes galères qui reviennent un peu.
Tu dis que c'est dur, c'est un peu sec comme film, parce que autant on avait le Nakash et Toledano tout à l'heure, bon, qui montrait une certaine misère. Bon, là c'était en matière de santé, l'encadrement social. Mais dans ce film-là, il y avait un peu de sauce, il y avait un peu d'humour, un peu de truc. Là, c'est très abrupt. Hein, là, c'est absolument pas le même ton, quoi. C'est vraiment ouf.
C'est une fois de plus on va le redire, et Looking for Eric et La Part des Anges, c'était des exceptions chez Ken Loach, hein. Je veux dire, pour une fois il a fait des blagues, et qu'en plus quand il les fait très très bien, mais des fois il a juste pas envie, enfin souvent il a juste pas envie. Mais la seule lueur d'espoir à la limite que je peux y voir, c'est dans la lutte au final. Encore une fois, même si je disais que là il montrait pas des gens qui se rebellaient contre le système, il montre le fils quand même un minimum, qui va trouver des petites astuces pour pouvoir faire ses tags, qui va essayer de s'élever contre ça, et qui en plus critique, même si on a l'impression qu'ils le font différemment, les deux critiquent la même chose, le père et le fils, ils le font juste pas de la même manière, mais ils sont contre la même chose en fait, ils s'en rendent juste pas compte. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'ils se rejoignent, en fait c'est bon, on reste des compagnons de galère dans ce genre de milieu quoi qu'il arrive. Et au final, oui, le traitement de la vieillesse qu'il fait par rapport à ces gens qui sont assistés, c'est aussi une façon pour lui, je pense, de se regarder, de se dire, moi tant que le jour où j'arrête de lutter, le jour où j'arrête de me battre, je ressemble à ça. Bon, de toute façon, lui, le jour où il arrête d'en battre, c'est le jour où il passe la main à gauche, hein, ce qui finira par arriver. Mais je pense qu'il a aussi conscience de ça, que les gens qui finissent par abandonner toute lutte, tout combat ou quoi que ce soit, finissent décrépits et gravataires, quoi. Et c'est ce qu'il essaye d'éviter en montrant ça aussi, en montrant accrochez-vous, faites des trucs. C'est la seule lueur d'espoir qu'on peut y trouver, mais il faut l'analyser pour la comprendre. C'est pas dit ouvertement dans le film, quoi.
Bon, sinon, pour Ken Loach, je retiens quand même juste ce que nous disait Karl en sortant de du Cinoche, c'est qu'il y a un seul chien dans tout le film, c'est un chien à trois pattes.
Non, mais évidemment, c'est un peu un résumé du cinéma de Ken Loach. Si tu dois avoir un chien, il faut qu'il lui manque une patte.
Hera, tu dois nous quitter, tu ne continues pas avec nous pour cette semaine. C'était très sympa de te voir. Alors, c'était pour les deux films les plus durs, je pense, de la semaine. Merci, Hera.
Merci, Thomas.
C'était pas trop dur, ça va, ça ira.
Non, mais on va survivre, hein, mais après, de toute façon, je suis contente d'être venue voir ça.
Who are you?
My name is Sarah Connor. Never seen one like you before. Almost human.
I am human. Why do you care what happens to her?
Because I was her.
Le... C'est quoi? C'est le sixième de Terminator? C'est le sixième Terminator. Sans compter la série. Avec toujours Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Terminator, le T-800, le bon vieux, même s'il ne l'appelle pas comme ça. Dans
c'est le T-101 parce que c'est le premier modèle, mais c'est le nom du modèle, c'est T-800.
Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, Mackenzie Davis dans le rôle de Grace, qui n'est pas un Terminator mais une humaine augmentée, Gabriel Luna dans le rôle du Terminator Rêve 9. Et on a Natalia Reyes qui joue Juanita Connor.
Juanita Connor.
C'est pas faux. C'est un putain de remake que t'as raison.
Avec nous, donc, on a toujours Thierry, vous l'avez entendu, on a toujours Karl, on a toujours Inès. Et on a Vincent qui nous a rejoint, Vincent de On se fait un ciné. Salut Vincent.
C'est ça, salut.
On prend toute la licence, on garde le 1, le 2, on bazarde le reste, ça n'existe pas, pouf pouf pouf. Et voilà.
La poudre de perlimpinpin.
C'est ça. Terminator a éradiqué à peu près 3 films, là, voilà. Qu'est-ce que ça donne du coup? Est-ce que ça valait le coup de... C'est pas un reboot, c'est un semi-reboot du coup.
C'est ça, c'est un semi-reboot et en plus de ça, j'ai limite l'impression que c'est un épisode filler destiné à repartir sur d'autres bases. Donc c'est limite un... On efface ce qui était pas bien, on te remonte ce que t'aimes bien, et comme ça, tu vois, on te montre qu'on pourra refaire des films qui pourront te plaire derrière. Donc, moi, je sors assez satisfait sur pas mal de points, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir là affaire à des scénarios. Je vais pas compter Tim Miller, hein, le mec a fait Deadpool, je considère pas que ce mec a fait quoi que ce soit dans ce film, mais il y a eu quand même 5 personnes qui ont écrit ce scénar, donc bon, ils ont à peu près capté ce qu'il fallait faire d'une saga comme Terminator. James Cameron n'était pas loin derrière, ça a dû aider. Après, ça n'a pas donné autre chose. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'au moins les autres étaient très mauvais, mais ils essayaient. Ils essayaient de faire la continuité, ils essayaient de continuer cette licence, ils essayaient de la faire aller autre part, à tort dans leur cas, mais au moins ça tentait quelque chose. Là, ça te montre à quel point ça a très bien compris comment ça fonctionnait. Il y a des points mis à part qui sont très réussis, sur lesquels on va revenir, mais ça ne propose rien de plus, quoi. Et c'est peut-être ça le problème.
Oui, on reste dans le même le Terminator n'est pas très imaginatif puisque c'est juste une fusion des précédents, mais c'est pas beaucoup plus.
C'est une suite logique, c'est ça. C'est, t'as le côté l'alliage métallique qui lui sert de squelette, qui donc fait penser au T-800. T'as le côté cette espèce de,
le truc, le métal liquide du T-1000, voilà. Hein, voilà.
Du métal liquide qui peut enlever, comme une surimpression et qui va lui servir de goule en quelque sorte, et qu'on peut éliminer plus facilement, mais qui peut se reformer à foison, qui fait donc penser au T-1000. Donc, en soi, c'est une suite logique. Comme le fait qu'il y ait une humaine augmentée pour les aider, c'est une suite logique que les humains, pour combattre les machines, vont tenter de s'augmenter eux-mêmes. Là-dessus, voilà, les éléments pris à part sont pas mauvais.
Oui, moi je rejoins Thierry, c'est vrai que ce film reprend beaucoup la structure des deux premiers, et principalement celle du 2. Il le fait plutôt bien, ça fait le boulot, même si on a quand même quelques facilités par-ci par-là. Mais ouais, ça propose rien de nouveau, donc on passe un bon moment, c'est correct, mais est-ce que ça fait avancer les choses, je sais pas, mais bon.
Ça a l'air de non, là. Vu comme tu le dis...
Ouais, bon, non, quoi, voilà, mais ça passe.
On retrouve les mêmes personnages, les mêmes situations, quasiment le même récit. tout en nous faisant croire ou en essayant de nous proposer une certaine variation. Mais c'est tellement sensible que, comme pour mes camarades, sur le moment, on trouve ça assez agréable puisqu'il y a une sorte de nostalgie aussi à retrouver Linda Hamilton. Ça fait quelque chose, surtout qu'elle est vraiment pétrie de charisme. Mais au-delà de ça, c'est la seule chose, moi, qui me restera puisque il y en a une mise en scène assez basique, assez symptomatique, je trouve, de ce qu'on fait dans les blockbusters aujourd'hui.
Je pense à son arrivée surtout. On la voit arriver sur un pont d'autoroute. Elle est iconique, elle gère le Terminator, fait le double Terminator assez tranquille, assez pépère, alors que c'est... voilà, bon, elle débarque en Deus Ex Machina. Il y aura beaucoup de Machina et de Deus Ex, quoi. Non, mais tu sens que c'est Terminator, c'est fait exprès.
Terminator, ça passe, hein.
C'est ça. Des Deus Ex Machina dans un Terminator, c'est normal. Ça fait partie du truc.
Voilà, au niveau du scénario, extrêmement basique. Et j'ai trouvé qu'il manquait souvent de clarté. Et même pas au regard des deux épisodes précédents, à savoir qu'il y a vraiment, je trouve, des caractéristiques, même du nouveau Terminator, que je n'ai pas forcément saisi. Une forme de dédoublement, donc je ne comprends pas. Est-ce qu'il se multiplie par deux, ou est-ce qu'il y a une enveloppe sans rien à l'intérieur qui se projette? Bon, pour le coup, je n'en regarderai pas grand-chose.
J'ai trouvé que le scénario était extrêmement basique, parce que pour moi, j'ai trouvé que justement, il voulait se maintenir à un truc très très basique pour éviter de faire des conneries. Et que du coup, c'est un scénario qui se bride lui-même, en fait.
Je me tourne vers celui qui porte le même nom que Schwarzenegger dans le film, Karl.
Aïe. Bah alors moi déjà j'ai un problème avec le fait de dire que les 3, 4 et 7 boosts de Genesis n'ont jamais existé, parce que même s'il y a des atrocités dans le monde comme Genesis, bah c'est une saga de science-fiction-action avec Arnold Schwarzenegger. Assumez le fait que vous aurez des films de merde, les gars. Vous attendez à quoi? Et ouais, ce côté, en fait, on va te refaire les moments un peu sacrés. Le film s'ouvre carrément sur des images de Terminator 2 avec Linda Hamilton, du coup des années 90, qui refait le speech. Il y a du rajeunissement numérique après. Enfin, on nous balance vraiment à la gueule du « Tiens, Edward Furlong, tiens, Linda Hamilton jeune, tiens, Arnold jeune. » Et il y a vraiment une idée de te rappeler toute une iconographie. Bon, après, quand les Terminators arrivent, en plus, c'est la même chose. Mais alors tu fais un reboot et t'ignores le 3, 4 et 5, ok. Tu dis que ce n'est plus Skynet, que c'est un autre truc, un complexe militaire ou industriel qui s'appelle Légion. Dans ce cas-là, pourquoi les Terminators s'appellent toujours les Terminators? Pourquoi ils ont toujours la même gueule que les Terminators? Pourquoi ils ont toujours les mêmes capacités que les Terminators? Pourquoi ils ont toujours les mêmes stratégies, techniques et matérielles que les Terminators? Enfin...
C'est du marketing, c'est juste le... Je crois que dans Genesis, ils avaient changé le nom aussi, non?
Tu penses qu'ils étaient intéressés par l'argent? Oui. Dans Genesis, ça s'appelait Genesis, c'était Matt Smith qui venait faire « Coucou, s'il vous plaît, sortez-moi du docteur », et c'est tout.
Voilà, à la limite, le côté, même si je trouve ça complètement con que ça s'appelle encore des Terminators, mais alors le côté, par contre, les ressemblances techniques et technologiques, ça me semble assez intéressant parce que c'est cyclique. C'est une façon de dire que de toute façon, l'intelligence artificielle, elle aura cette évolution-là à un moment donné et que ça en arrivera là. Par contre, c'est complètement con que ça garde les mêmes noms, ça, on est assez d'accord.
En tout cas, personne ne s'inquiète jamais du fait qu'une usine a créé un robot tueur et a choisi de lui donner un accent autrichien. Vraiment, moi, c'est mon gros problème avec la saga depuis le début.
Mais c'est l'efficacité allemande, c'est...
Autrichienne.
C'est pareil, depuis la guerre, on sait que c'est... on les confond, c'est bon.
Non mais, je sais que ça fait toujours plus peur de se faire gueuler dessus en germanique qu'en dans une autre langue.
C'est psychologique, voilà.
Mais il est pas censé crier le Terminator. D'ailleurs, c'est quoi ces délires où je me suis fait pousser une conscience spontanément parce que j'avais plus d'ordre?
Alors, moi...
c'est pas Ghost in the Shell, dude.
Non mais, c'est le moment où j'ai décroché du film. En fait, on a Schwarzenegger qui débarque au milieu du film. Et donc là, c'est le Terminator T-800 gentil qui débarque au milieu du film. Et la justification scénaristique m'a tellement sorti du film. Je n'y croyais tellement pas.
Il est amoureux de son chien.
Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a Schwarzenegger. Donc on a le Terminator qui est maintenant au Texas avec sa femme et son chien. Et qui prépare des despés avec des petits citrons. Et qui regarde le foot américain, mais sérieux.
Tu veux qu'ils soient en short avec une chemise à voile et qu'ils foutent des ombrelles en plus des citrons, ça aurait été parfait, quoi.
Et après, il te fait l'article sur les armes parce que bon, tu comprends, on est au Texas et que c'est bien de vendre des armes. Putain,
Non, en plus, il donne le vrai argument de la NRA, c'est en plus, comme il y aura l'apocalypse, j'utilise ça pour protéger ma famille. Pourquoi les effets spéciaux sont aussi dégueulasses? Ils sont moins convaincants. Le premier plan avec les Terminators sur la plage, j'y ai pas cru une seconde. Pourquoi ils sont moins convaincants qu'en 84?
Oui, non, mais. Non mais je pense qu'ils ont repris sur les rushs d'avant et qu'ils ont implanté les visages numériquement sur d'autres acteurs. Parce que le rajeunissement, là, ça me semble pas être... Enfin, après, je sais pas, faudrait se renseigner, mais...
Je sais pas comment ils ont fait. En tout cas, ça passait assez bien comme effet, mais quand le Terminator se projette, putain, à chaque fois qu'il saute, mais ça devient une cinématique de PlayStation, quoi.
Ouais, mais alors ça, c'est le même problème que j'ai repéré avec Gemini Man aussi, qui, malgré toute sa technologie, dès qu'il y a des mouvements un peu acrobatiques, il y a des problèmes avec la physique.
Les effets, ça m'a pas tant marqué. Après, de toute façon, la réponse à ta question, c'est que des animatroniques vaudront toujours plus que des effets physiques et ça vieillira, des effets numériques et ça vieillira toujours mieux. Mais non, moi, ça m'a pas tant dérangé. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très assumé de faire du très très grand spectacle. Alors même si le problème, c'est Tim Miller à la réal qui est pas foutu de poser sa cam et qui du coup fait un montage qui est très saccadé avec des ralentis de partout pour qu'on prenne bien les actions parce qu'il est pas foutu de les filmer correctement.
Final, elle m'a défoncé les yeux.
Ah non, mais c'est pas beau, c'est pas beau. Mais bon, c'est dommage parce que dans l'idée, ça s'arrête pas, c'est une fuite continue. En fait, j'ai eu l'impression de retrouver ce filtre épique, en fait, mais qui est propre à Terminator, mais qui était clairement pas dans les autres. À part à la limite dans le quatrième où il y avait aussi de l'action en continu. Il y avait ce côté-là, cette espèce de volonté de grand spectacle constante et de toujours en foutre plein la vue, même si ça reproduit les schémas. Hein. T'as une poursuite sur l'autoroute avec un gros camion, il manquait juste la moto, ça se finit dans une usine, voilà, bon, c'est... Il y a quand même trop de schémas extrêmement similaires, mais au moins...
Ça commence aussi dans une usine, avec le bon vieux discours « Oh là là, on est remplacé par des robots dans une usine de voitures, merci les gars, enfin, on connaît ça depuis 20-30 ans, donc il est où le discours novateur là ?» Même ça, ils l'ont recyclé.
Bah, ils sont partis sur le même principe que si tu peux pas arrêter le jugement dernier, tu ne feras que le reporter. Donc, ils sont partis de ce principe-là, qui n'est pas le pire principe, de toute façon tu peux pas continuer cette licence si tu fais pas ça. Après voilà, est-ce qu'ils vont faire d'autres trucs? Si oui, quoi? Moi je trouvais que c'était cool de réiconiser les personnages, surtout Sarah Connor, de manière aussi pertinente, parce que là-dessus son cheminement est logique, on comprend qu'elle est continuée dans son obsession, surtout après avoir perdu son fils, et ça lui donne en plus une raison supplémentaire, ce que n'avait pas John Connor dans le troisième d'ailleurs, et là au moins voilà, ça lui donne une raison supplémentaire de continuer à se battre et d'être ce qu'elle est là, donc ça c'était plutôt très bien. Non voilà, c'est pour ça, des éléments pris à part qui sont bien, mais c'est vrai que le film là on va l'oublier, là ça m'a donné envie de me remater les deux premiers, et une fois que je les aurais vus, je me disais ouais, c'était pas utile.
On a un passage de relais hein. On a le passage féminin, on a le girl power aussi.
Non mais depuis le 2, il y a Linda Hamilton. Dans le 1, bah, elle fait la meuf qui crie et qui s'enfuit, mais c'est normal. Mais dès le 2, il n'y a plus de problème. Ça serait limite la licence blockbuster la plus pertinente où foutre plus de personnages féminins. Et là, au niveau girl power, il y a une scène où vraiment, ça serait un spoil, mais en gros, c'est... N'attends pas qu'un homme sauve l'humanité, tu vas la sauver toi-même, toi qui es une fille. Il y a deux ou trois répliques où tu dis... Ouais, c'est bon, j'avais compris. Ouais, bon, à part ça.
Il faut prendre son destin en main, car le destin n'est pas écrit. Et le destin, il n'est pas écrit. Donc il faut le prendre en main. Écris le tien. Bravo. Bien. Bon, ben, on va pas s'attarder plus là-dessus. On va terminer Terminator. Voilà, ça c'est fait. Merci Inès de nous avoir accompagnés pour ces trois films, pour cette semaine.
Ouais, merci de m'avoir accueilli. Hein.
Donc où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur Jeux de Focus et sur Critique Film, voilà. De temps à autre, j'écris des articles sur des films surtout de patrimoine, pas forcément d'actualité.
Vincent, merci d'être venu également.
Merci à vous de m'avoir accueilli, hein, c'était très sympa.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
De temps à autre sur On se fait un ciné et sa déclinaison en magazine Désolé j'ai ciné, puis sur mon blog perso Movie Nights. Puis voilà, je suis présent sur Twitter aussi, je vous laisserai mettre en description s'il faut.
Merci Carl également.
Merci Thomas.
Ça va, c'était pas trop dur ce matin?
Un film sociétal qui m'a emmerdé, un film social qui m'a emmerdé, et Genesis qui... Ah bah non, pas Genesis.
Dark Fate.
Et Dark Fate qui, malgré son nom absolument générique, est déjà un peu moins grave que Genesis. D'ailleurs, est-ce que Alan Taylor a disparu de la circulation? Je veux dire, ça me rendrait heureux, mais est-ce qu'il a disparu de la circulation? What have you done? We go home now. Aurora! Maleficent is a threat to everyone. We'll do our best to protect you. Well, well. One can never be too careful. You do not know me. Petite séance de rattrapage. On vous a raconté la semaine dernière qu'on allait vous épargner. Eh bien non, on ne vous épargne pas.
Thierry ne recule devant aucun sacrifice pour vous. Il est allé voir Magnifique de Le Pouvoir du Mal de Joachim Ronin avec Angelina Jolie, Elle Fanning et Michelle Pfeiffer. Les aventures de Maléfique, la suite de l'épisode précédent que je n'ai pas vu. Alors, Maléfique est-elle toujours aussi méchante ?
J'adore quand tu me parles de sacrifice parce que là, ça me donne envie mais de taper la tête contre le mur. Parce qu'il faut quand même comprendre le contexte dans lequel je suis allé voir ce film. Hein. Parce qu'on devait aller voir l'avant-première d'Hors Normes, on en a parlé, personne ne savait s'ils allaient venir, s'ils allaient pas venir. Donc je me suis dit, je vais me caler un truc entre-temps, comme ça, en sortant du boulot, ça va me laisser patienter 2 heures pour savoir si on va en norme ou pas. Je me retrouve devant ce truc-là pour finalement ne devoir rentrer chez moi derrière. C'était pas très agréable. Tu vois, un électrocardiogramme plat, je pense que c'était mes yeux pendant tout le film. J'ai vu des images. J'ai vu des gens visiblement à l'écran. Je suis même pas certain d'avoir vu des gens à l'écran tellement c'était moche. J'ai entendu de la musique, j'ai entendu des dialogues. Je suis incapable de te dire ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que j'en ai eu à foutre. Je suis vraiment resté, mais passif devant ce film. J'ai vraiment regardé en mode, je m'en bats les reins, quoi. C'est incroyable.
On a compris, mais alors du coup, donc il n'y a rien qui imprime, mais sois plus spécifique là quand même.
Bah écoute, je peux même pas te raconter le scénar. Ça se situe du coup entre le premier film et La Belle au Bois Dormant, mais de manière assez... C'est assez abstrait, ça part encore du principe qu'un maléfique, c'est une gentille qui est manipulée par des méchants. En l'occurrence, une des reines là, qui est jouée par Michelle Pfeiffer. On est dans un... En gros, tu tapes du CGI à 3 balles, tous les décors sont fake, tous les acteurs n'en ont absolument rien à foutre. Angelina Jolie en premier, hein, alors que c'est elle la tête d'affiche du truc. Chaque fois que j'avais Elle Fanning, j'avais l'impression qu'elle nous hurlait de la libérer de ça. Et Michelle Pfeiffer, je sais pas combien elle a de divorce sur le dos, mais putain, elle a tant besoin de thunes que ça. Parce que entre Ant-Man et la Guêpe et ça, le crime de l'Orient Express, enfin, merde quoi. Je veux dire, on a une des meilleures actrices qui existe encore aujourd'hui, et on en fait ça. Ce qui m'a particulièrement choqué, où vraiment je me suis dit, putain, mais ils ont un budget qui doit être assez conséquent, je sais pas combien ça a coûté tout ça, mais l'incrustation des visages sur les fées, sur les 3 fées, qui dans le premier m'avait pas tant dérangé, mais alors là vraiment j'avais l'impression qu'on avait rajouté, j'avais l'impression de voir la gueule d'André Dussolier dans Vidocq.
Ah ouais, quand même, ouais.
Ouais, sur les visages des 3 fées. Et j'ai pensé à Hook. Je me suis dit, avec de la perspective et juste une caméra intelligente, parce que bah, Steven Spielberg est un bien plus grand génie que tous les Yes Men de Disney, il arrivait à te rendre Julia Roberts crédible en clochette.
C'était juste un fond vert, elle était réduite, et voilà, ça faisait l'affaire.
C'est ça. Avec ça, ça passait parfaitement. Là, ils ont incrusté les visages des actrices sur des corps digitalisés. Du coup, c'est dégueulasse, quoi. Alors qu'il suffit de faire une technologie comme ça qui sûrement coûterait moins cher. Enfin, bref, là, je chipote sur un détail, mais c'était beau dire que ça, c'était vraiment un truc où je me suis dit, putain, c'est moche. En fait, voilà, j'ai regardé le film sans le regarder, en me disant juste, ah, ça, c'est moche, oh, ça, c'est moche. Ah là là, c'est Angelina Jolie ça ou c'est juste une image CGI où elle prête sa voix? Parce que c'est tellement lisse, tout est tellement lisse, tout est tellement plat, ça raconte rien, il se passe que dalle. Puis de toute façon, une fois que c'est passé, soit t'en avais rien à foutre, soit tu l'as déjà oublié. Mais par contre, tu vois, dans cette espèce d'état léthargique, j'en suis sorti parce qu'il y a des gens qui se sont levés, qui ont applaudi. Il y a eu une, bon, pas toute la salle, de toute façon on n'était pas extrêmement nombreux, mais il y a eu une mini standing ovation par des personnes, quoi. Et ça, je ne capte vraiment pas. J'ai déjà des gens qui s'étaient plaints de ça, qui m'avaient dit, putain, des gens ont applaudi pendant Maléfique. Là, ça s'est reproduit. Mais qu'est-ce que les gens consomment, quoi, enfin, pour en arriver à un point où ils trouvent que ça, c'est bien.
Et ils ont payé pour voir le film.
Oui, ils ont payé pour voir le film. Je suis content de ne pas l'avoir fait, mais bon, j'ai quand même, du coup, pris un ticket là pour Disney, quoi. Ah, quelle horreur.
Aïe, 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 aïe. Maléfique, le pouvoir du mal. Le mal a encore gagné. On a trop parlé sur Maléfique. On va voir Angry Birds.
Allez!
Nous devons former une équipe!
Allez, on sort de là!
Ah! Bombe, tu restes privé de sortie!
Je suis plus un poussin, maman!
Je vous présente ma sœurette Silver. Elle est hyper intelligente. Mais c'est qui celle-là? Pourquoi elle est bardée de diplômes et de prix?
Je suis désolé, mais je le sens pas du tout.
Je note niveau de colère anormal.
Cause toute seule.
Manque de confiance.
Gauchère, c'est sûrement une sorcière.
Amuse-toi bien tout seul.
Je l'adore.
Il nous faudra aussi des muscles.
Pour un constructeur. C'était pas joli à voir.
Alors, le cinéma est quand même extraordinaire. On peut saluer la créativité des producteurs. Imaginez un peu, vous prenez un jeu sur tablette, et ça consiste juste à prendre des oiseaux que vous lancez sur des cochons avec un lance-pierre. Et les studios sont tellement balèzes qu'ils vont pas tirer un film, mais deux films. Ça nous donne Angry Birds, Copain comme cochon, le deuxième film de la licence multidéclinée. Thierry, on t'a envoyé à coups de catapulte dans la salle. J'ai compris que c'était pas fou, mais qu'est-ce que... T'en retires quelque chose au moins
Bah, c'est une aventure, c'est extrêmement orienté enfance, mais pas dans le bon sens du terme. C'est, ça va faire des gags de prout, ça va faire des gags de je suis tombé, ça va faire des gags bien naze. C'est pas très bien écrit, les dialogues sont pas fous. Mais je suis sûr que les gens vont se cacher derrière en se disant c'est pour les enfants. Je rappelle qu'on a vu Shaun le Mouton. T'as pas le moindre dialogue écrit et pourtant ça transmet plein d'émotions, tu vois, c'est quand même différent. Et c'est pas parce que c'est pour les gamins que t'es obligé de les prendre pour des crétins. Je voyais pas vraiment l'intérêt de ce truc. C'est vrai que ça, c'est une aventure sur l'amitié, comme on a vu 36 000. Ils vont s'entraider, donc finalement ils vont s'apprécier. Il va y avoir une histoire d'amour à la con. C'est cliché à souhait et ça n'a vraiment aucun intérêt. On l'a déjà eu 36 000 fois, en beaucoup, beaucoup mieux, même cette année. Je sais pas, pour les gays enfants, cette année il y en a pas. Il y a sûrement Abominable, il y a Dragon, plein de dessins animés.
Disons que là, pendant les vacances, on a Shaun le Mouton, on a Abominable, on a Angry Birds, on a les ours, la fameuse invasion des ours de Sicile. Tu recommandes plutôt quoi?
Je recommande plutôt un peu tout sauf ça. Pour les tout petits, je dirais largement Shaun le Mouton. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit pendant les vacances? Pas Angry Birds, quoi. Je veux dire, faites pas comme moi. N'allez pas le voir pour vous faire une idée et pour enregistrer un podcast histoire de ramener de la vue.
Je suis pas sûr qu'Angry Birds ça ramène beaucoup de vues.
Pour ramener les 4 écoutes, c'est les mêmes que ceux qui sont venus écouter La Vérité si je mens. Voilà, parce qu'en faisant ça, on rapporte quand même un petit billet à Sony. Et c'est pas bien, il faut pas leur faire comprendre que ça marche parce que sinon ils vont en faire un troisième.
Et ça serait vraiment terrible.
Niveau scénario, c'est au même niveau que Maléfique 2. Tu sais, où tu comprends pas comment est-ce qu'on peut faire une 2 origin story sur une méchante qui n'a pas d'origin story à part le « j'ai fait une aiguille ». Voilà. Bah là c'est pareil, ouais. C'est juste, tu es là, tu fais mais vous étirez une trame scénaristique pour du vent, quoi. C'est en deux films.
Balèze.
Dodo, sono Pepino. Io ho bisogno di te. È passato tanto tempo. Mi è successo qualcosa. Un figlio mio stanotte è uscito per una fatica. E non è tornato.
Che vi serve?
Siete Mr. X.
Se hanno fatto qualcosa a Nino mio, scatena una guerra.
Allez, après la séance rattrapage, un petit dernier pour la route. Petit film italien, 5, le numéro parfait, avec Tony Servillo, le grand acteur italien. Film italien donc, réalisé par Igor, pseudonyme, hein, d'après une nouvelle graphique, d'après un roman graphique. Très pulp, très kitsch quand même dans l'image, avec des couleurs assez vives, même si ça tient du roman noir quand même au niveau de l'histoire. Une histoire de tueur, de guerre, de clan, de vengeance, un truc assez brouillon, assez mélangé, assez trouble, assez perdu, et un Tony Servillo en roue libre.
Ça va puiser dans, ouais, comme tu dis, le roman noir, ça va puiser dans le western aussi, pas mal, et ça se voit, mais immédiatement, t'as même pas besoin de le préciser, y'a même pas besoin de chercher dans le générique si ça vient d'une nouvelle graphique ou pas. Parce que c'est encore une fois, ça fait partie de ces films où, si c'était pas issu d'une nouvelle graphique, le gars aurait fait mais tous les choix différents possibles.
Ça canarde dans tous les sens. En gros, soit ça blablate, soit ça canarde. Y'a jamais d'entre deux. C'est un John Wick italien, mais avec un vieux John Wick qui cabotine. Oh, Tony Servillo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Tony Servillo, c'était Berlusconi quand même, oui, dans Il Oro. Ouais, mais quand il fait Berlusconi, c'est presque normal, quoi. Ici, mon Dieu, mais c'est...
Tony Servillo, faut pas oublier que c'est un acteur de théâtre. Et au théâtre, tu joues pas du tout de la même façon qu'à l'écran. Et je pense que si tu lui mets pas un metteur en scène ou un réal qui va le cadrer un peu plus, parce qu'on est devant une caméra, donc on n'est pas censé faire le même genre de travail, il va jouer comme au théâtre. T'as un plan de confrontation sur l'immeuble Camp Paris, là, qui est magnifique. Chaque plan est beau. On a le plan sur les pieds, bah, c'est pour ça que je parlais de western. Chaque fois qu'il y a un plan, c'est composé, la lumière est parfaite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est juste que ça colle difficilement au cinoche, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, c'est dès que c'est dans l'histoire, c'est dans le montage, c'est dans la composition, c'est dans la mise en scène. Après, c'est dans le rythme. Il y a un problème. Et dans le jeu d'acteur, il y a beaucoup de soucis, quoi. C'est magnifique, hein, les plans. Quand à un moment, ils sont sur une île. Les plans sur la plage sont magnifiques. Les plans dans les ruelles, on est dans des vieilles ruelles. C'est quoi ? C'est Naples. On a des décors sublimes, mais c'est vrai que au niveau du canardage, en plus, c'est un peu poussif. C'est bang bang, pam pam. Ça va pas plus loin. En dehors des beaux plans, on s'emmerde.
Puis c'est de la casse de BD.
Oui.
C'est tellement de la casse de BD qu'à chaque fois que, enfin, dans une fusillade, c'est des plans fixes et arrêtés sur les gens qui se font tirer, puis la personne est tombée à terre. Enfin, oui, c'est vraiment chaque plan est une case. Il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a rien de plus. Donc tout va jouer sur le montage. Montage qui fait très, je passe d'une case à l'autre.
Bon, on tourne la page pour numéro 5.
Ouais. On va laisser tomber. C'était pas non plus désagréable, mais. Un peu soporifique.
Voilà, tout est dans la dernière phrase. C'est pas volontaire, mais c'est vrai que je me suis retourné un moment dans la salle, il y avait pas mal de personnes qui dormaient. Heureusement qu'ils rappellent le scénario plusieurs fois dans le film.
Ah, je me souviens de quand on a tué mon fils et que ton frère est venu me sauver. Chapitre 1.
Mais dis-moi, tu te souviens quand on a tué ton fils et que mon frère est venu te sauver ?
Chapitre 2. Hé, est-ce que je t'ai déjà raconté la suite de l'histoire où on a tué mon fils mais que ton frère a venu me sauver ? Chapitre 3.
Ouais. Ça devient redondant comme ce film, donc nous allons couper ici. C'est la fin, c'est la fin. Qu'est-ce que t'as retenu de cette semaine un peu ?
Bah écoute, tu sais quoi, les trois films, on va dire, sur lesquels on a le plus parlé, je les ai retenus. Enfin, même s'il y en a un qu'on risque d'oublier, malheureusement, c'est le Terminator, mais j'ai quand même pas boudé mon plaisir. Hein. La claque se partage entre le Ken Loach et le Toledano Nakash. C'est deux films très similaires et à la fois très différents et qui m'ont semblé assez indispensables l'un comme l'autre, donc ouais.
Bon, moi je conseille plus le Toledano Nakash qui est quand même plus facile.
Ah oui, non mais Ken Loach c'est un peu comme toujours, à part sur des films qui sont limite, j'imagine, consciemment initiatiques par lui-même. Il faut pas y aller sans être prévenu à mort ou sans connaître un minimum son cinéma. C'est très austère quand même, Ken Loach.
Merci Thierry.
Merci Thomas.
C'était certain les machos.
Ouais.
Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Commentez l'épisode, partagez-nous votre avis, dites-nous quelle est votre opinion. Et puis si vous l'avez aimé, eh bien dites-le également sur les applications de podcast. Certaines comme iTunes, enfin Apple Podcast, permettent de noter l'épisode avec 5 étoiles. Ça permettrait de donner de la visibilité à l'épisode et donc de le faire découvrir à d'autres. Vous pouvez également commenter sous l'épisode pour faire remonter la visibilité. Abonnez-vous également sur votre application de podcast pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain même. À très bientôt. Bisous, bisous, bisous.
Bisous, bisous, bisous. Attends.
Le Terminator du pauvre.
I'll be back.